Rembobinage, une émission d'histoire et d'actualité. Aux manettes, Enzo Di Meo, au micro, Jérémy Foa. Aujourd'hui, Rembobinage consacre une émission au combat oublié de Julien Raymond au cœur de la Révolution française. Combat en faveur de l'abolition des discriminations fondées sur la couleur de peau dans les colonies. Nous sommes en compagnie de Florence Gauthier, auteur de l'ouvrage L'aristocratie de l'épiderme, le combat de la société des citoyens de couleur, 1789-1791. Malgré la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui décrète que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, l'abolition de la discrimination envers les personnes de couleur ne va pas de soi pour tous les acteurs de la Révolution française. Au contraire, entre 1789 et 1791, le lobby colonial prend le pouvoir à l'Assemblée constituante et parvient, en mai 1791, par un décret étrangement occulté par la mémoire nationale comme par les historiens, à rendre l'esclavage constitutionnel. Comment la Révolution française, point d'orgue du siècle des Lumières, a-t-elle pu voter de pareilles lois et encourager de tels préjugés racistes? Quels sont les hommes qui se sont opposés au maintien de l'esclavage dans les colonies et aux discriminations fondées sur la couleur de peau? Quels ont été leurs moyens, leurs échecs et leurs victoires? Qui sont leurs adversaires? On pose la question à Florence Gauthier dans Rembobinage de 17h à 17h30. Florence Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Paris 7. Vous êtes une spécialiste de l'histoire de la Révolution française et en particulier de l'œuvre de Robespierre. Vous publiez aujourd'hui le tome 11 de ses œuvres. Vous êtes aussi une spécialiste de l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue, Haïti, de l'histoire des colonies. Et nous vous recevons aujourd'hui pour votre ouvrage intitulé « L'aristocratie de l'épiderme, le combat de la société des citoyens de couleur ». 1789-1791 aux éditions du CNRS. Alors d'emblée, pour nous planter un peu le contexte, qu'est-ce qu'une société à esclaves dans la France d'Ancien Régime?
Dans le royaume de France de l'Ancien Régime, avec ses colonies, une colonie esclave, ça fait partie de ce monde, cet empire colonial qui s'est développé en Amérique depuis ce qu'on appelle la découverte de l'Amérique, ce que Las Casas appelait la destruction des Indes. Vous voyez comme les deux termes sont parlants, enfin c'est fort quoi. Et c'est là que l'on a mis sur pied, inventé des systèmes d'économie nouvelle fondée sur une main d'œuvre mise en esclavage, d'abord avec les Indiens et puis ensuite, après avoir épuisé, il faut bien le dire, les ressources physiques de ces Indiens. On les a remplacés par des captifs déportés venus d'Afrique, déportés jusque-là, ce qui était des affaires extrêmement compliquées, et mis en esclavage une fois arrivés sur place. Alors cette économie prend des formes diverses et variées, mais si on prend les colonies françaises et sur le théâtre qui va nous intéresser là maintenant, c'est-à-dire la colonie française de la partie française de Saint-Domingue, qui est une colonie tardive puisque le roi de France s'est intéressé fort tardivement aux colonies d'Amérique.
C'est aujourd'hui Haïti, hein.
Haïti aujourd'hui, et à l'époque c'était la partie donc occidentale de la colonie espagnole de Saint-Domingue, de Santo Domingo. Mais bon, bref, voilà, ça s'est traduit en français à ce moment-là. Et à la fin du XVIIe siècle, pour des histoires compliquées qu'on ne va pas raconter là maintenant, parce qu'on ne veut pas tout raconter, les colons espagnols avaient quitté cette colonie après avoir épuisé les sols, comme le capitalisme sait si, hélas, bien le faire, épuise l'humanité et les sols et la nature. Et là, c'était déjà fait, c'est un cas intéressant d'ailleurs à reprendre, hein. Et bon, une période de vacances, si on peut dire, pour tout le monde, et puis rebelote, on repart sur un nouveau projet de plantation esclavagiste et qui est là, bien organisé, bien pensé, et qui va donner l'île de, enfin, la, la partie française de Saint-Domingue, spécialisée dans la production du sucre, qui va permettre de réaliser des fortunes colossales sur quoi donc ? Sur la production d'un produit qui est le sucre, qui va permettre des spéculations extraordinaires et autoriser les colons qui sont propriétaires de ces plantations sucrières de faire véritablement fortune. Des millions de captifs africains ont été déportés vers l'Amérique, et pas seulement sur l'île de Saint-Domingue, bien sûr, mais enfin sur l'ensemble de cette Amérique esclave, puisque on peut l'appeler comme cela à cette époque, l'Amérique esclave. Donc il y a cette traite négrière qui se développe et qui va entretenir ce commerce quand même réduit à des produits de pure spéculation qui sont le café sucré, quoi. Hein. Le café sucré qui va être consommé sur les tables de l'Europe, qui accepte de payer des prix très élevés pour obtenir ce petit produit qu'est le café sucré de cette époque.
Alors Saint-Domingue, 18e siècle, c'est 70 000 hommes libres qui dominent 450 000 esclaves. Quelles sont les différences de statut entre les hommes libres, les noirs libres, les hommes de couleur libres et les esclaves à proprement parler? Il y a différents statuts qui sont progressivement organisés à Saint-Domingue.
Oui, tout à fait. Au début de cette nouvelle, de ce nouveau temps de colonisation, puisque je viens de dire qu'il y avait une première époque espagnole et puis elle a sombré dans le néant, et ensuite une seconde période de colonisation avec la colonisation française à Saint-Domingue, qui a transformé cette île en premier producteur de sucre du monde, hein. Je veux dire, c'est quand même...
C'est la perle des Antilles.
Oui, c'est ça, on l'appelle comme cela, la perle des Antilles. Eh bien, un nouveau statut est apparu qui est lié aussi à la formation très rapide de cette colonie esclavagiste. Alors, il faut comprendre les choses. Quand on arrive à la fin du XVIIe siècle dans un espace comme celui de Saint-Domingue, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus personne et quasiment plus rien. Tout a été détruit dans un premier temps. Et on repart sur des choses complètement nouvelles. Hein. Alors évidemment, je ne peux pas vous raconter comment ça s'est fait, parce que c'est un peu compliqué, bien sûr. Vous pouvez l'imaginer rien qu'en disant qu'il n'y avait rien et qu'il y a eu tout après. Enfin, il y a quelque chose de fort. Mais ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'on a mis sur pied des systèmes de plantations esclavagistes fondés sur le travail manuel de ces captifs africains, puisque tout a été fait par travail manuel aussi. C'est important de le signaler rapidement. Et vous avez eu un changement, un renouvellement de cette main-d'œuvre de captifs qui étaient des hommes libres en Afrique et qui sont devenus esclaves en mettant le pied en Amérique, qui est terrible, puisque la durée de vie de ces esclaves est de 10 ans environ en moyenne, quoi. Hein, bon. Donc ça veut dire beaucoup de choses, et ça veut dire aussi surtout qu'il n'y avait aucune aide au travail manuel pour ces gens-là, donc ils faisaient tout à la main, et c'est important de le comprendre. Alors au début, la société est organisée avec une poignée de colons qui venaient d'Europe, des Français bien sûr, mais aussi d'autres, c'est pour ça qu'on dit des Européens, hein, et qui ont mis en place ce système, et ils sont très minoritaires par rapport au nombre de plus en plus progressif du nombre des captifs qui vont se retrouver mis en esclavage. Alors les chiffres vont de 5 000 au fin 17e, et on passe à 15 000, 20 000 au début du premier tiers du 18e siècle, jusqu'à 500 000 dans la période qui va nous intéresser, qui est la période de crise et de révolution vers 1789. Hein. Et il y a une minorité de population européenne, c'est-à-dire des gens qui dominent cette société, et il y a deux statuts à cette époque-là, deux statuts juridiques reconnus par le roi de France, le statut des colons qui forment la classe dominante et qui sont les sujets libres du roi de France, et puis le statut des esclaves qui sont des étrangers. Et entre les deux, il n'y a pas de statut particulier, puisque les affranchis qui peuvent être faits par différents moyens sont considérés par le roi de France comme des sujets libres du roi de France et qui ont les mêmes droits que les Européens, hein, si vous voulez. Voilà. Vous avez deux statuts à ce moment-là.
Ce que vous montrez de manière très forte dans votre livre, c'est que l'histoire du préjugé de couleur a précisément une histoire. Elle n'est pas de tout temps. On n'a pas de tout temps décrier les Noirs parce qu'ils étaient Noirs, on ne les a pas toujours mis dans une position subalterne en fonction de la couleur de peau. On peut être une société esclavagiste sans être une société ségrégationniste.
Bien sûr, c'est bien l'exemple des colonies françaises qui mériterait d'ailleurs d'être comparé à d'autres structures des sociétés coloniales d'Amérique, puisqu'il y a eu beaucoup d'expériences hein, sur cet énorme continent, comme on peut l'imaginer. L'ampleur du continent permet de saisir le problème. Et il se trouve que les colonies françaises, et c'est ça qui m'a intéressé, montraient que le préjugé de couleur est apparu très tardivement. Et donc, pendant près d'un siècle, la colonie française de Saint-Domingue et les autres colonies françaises, mais qui étaient beaucoup moins développées, Guadeloupe, Martinique, Tabago et quelques autres, puisque ces colons n'arrêtaient pas de se voler leurs colonies les uns les autres. Enfin, bref, mais passons sur ces petits détails, si on peut dire. Et on arrive à ce constat que les colonies françaises, pour des raisons qui sont importantes, historiques, et qu'il faut déterminer, chercher et comprendre, étaient indifférentes à couleur, et donc il n'y avait pas de ségrégationnisme. Alors qu'à côté, vous aviez des colonies espagnoles, anglaises ou autres, qui était déjà en train de mettre en place ce préjugé de couleur qui va ensuite se transformer, mais plus tard et dans d'autres circonstances historiques précises d'ailleurs, en racisme, celui que nous connaissons, disons, pour faire vite.
C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des colons de couleur.
Bien sûr qu'il y avait des colons de couleur, et même la première génération des colons français nés sur place, ce qu'on appelle les créoles, étaient des métissés, puisque la plupart des colons français qui arrivaient à Saint-Domingue à la fin du XVIIe siècle venaient jeunes et courageux, faut bien le dire aussi, d'une certaine manière, hein, et ils étaient sans femmes, et ils ont épousé des femmes africaines qu'ils ont trouvées parmi les captifs africains, et ils en ont fait leurs femmes légitimes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils les ont épousées, femmes légitimes, etc. Et vous aviez parmi ces colons des cadets de familles nobles et des cadets de familles riches également, qui n'étaient pas forcément nobles, hein, c'est comme ça que ça se passait dans cette société, et qui ont donné la première génération des colons créoles, nés sur place, donc c'est ça que ça veut dire ce mot, qui étaient tout à fait métissés. Et ensuite, ces enfants de colons métissés ont vraiment donné ont fait partie de la première génération née sur place des héritiers des colons, quoi. Et puis ils sont, une partie d'entre eux, leurs frères et sœurs, etc., sont retournés dans le royaume de France et se sont mariés dans la classe dominante, quoi, parce que à cette époque-là, en France, il n'y avait pas de préjugés de couleur, il y avait une indifférence à la couleur, comme on dit en termes juridiques, quand on veut exprimer la chose de cette façon.
Bon, dans cette société, la Révolution française, avec ses idéaux universalistes, elle éclate en 89, et est-ce qu'elle est bien reçue, et est-ce que la Révolution française, avec ses idéaux justement universalistes, la Déclaration des droits de l'homme, elle met fin, d'un coup, au préjugé de couleur qui s'est progressivement développé au XVIIIe siècle.
Ce serait trop beau.
Ce serait trop beau, voilà.
Et oui, il s'est passé des choses en France, ça ne veut pas dire que l'état de réception d'idées de ce type-là est le même dans un continent voué au colonialisme, à l'impérialisme, à des formes d'expérience sociale tout à fait extravagantes et extraordinaires. Extravagantes, on peut le dire quand même, quand on voit la réalité des choses. En Amérique, nous sommes sur le continent qui est, le continent qui permet les expériences colonialistes les plus extraordinaires. Un continent entier, je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire que la découverte de l'Amérique, mais c'était ça, depuis le XVIe siècle, enfin depuis 1492, et puis la mise en place de tous ces systèmes-là, nous avons là affaire à une espèce de banc d'essai extraordinaire. Bien, bon, donc la Révolution française commence, et dans les colonies, au contraire, nous avons un parti qui s'est trouvé être absolument en opposition à une situation de transformation politique et philosophique
telle
que la Révolution française pouvait l'exprimer et qui le menace directement, et ils l'ont ressenti comme cela. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'un parti ségrégationniste va se renforcer. Il était déjà apparu un petit peu avant, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est le parti ségrégationniste qui apparaît là et qui va vraiment devenir un obstacle très fort à la progression des idées révolutionnaires, quoi.
Parmi ces colons, il y a une figure extraordinaire, c'est Julien Raymond, qui est au cœur de votre livre, qui lui, au contraire, va mener le combat en faveur de l'abolition de la discrimination des préjugés de couleur. Alors pourquoi c'est qui ce Julien Raymond et pourquoi il a cette position qui finalement serait un peu en désaccord avec ses intérêts ?
Oui, certainement, tout à fait, puisque Julien Raymond était un fils de colon, esclavagiste bien évidemment, puisque qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce monde ? Rien d'autre. Donc il appartenait à ce milieu, c'était un héritier riche et il est né au milieu en 1744, quoi, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Enfin, ça arrive très vite au moment où le préjugé de couleur est en train de se développer. Alors, il faut que je dise un mot, un instant rapidement sur l'apparition de ce préjugé de couleur et pourquoi il est devenu si consistant. C'est que, pour aller vite, hein, parce qu'évidemment il faudrait voir ça en détail, mais nous n'avons pas le temps, vous le savez, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, bien qu'il y ait eu déjà des choses qui pouvaient apparaître un petit peu avant, il y a eu un afflux de personnes qui venaient d'Europe, en particulier de France, et qui ont cherché à s'enrichir dans les colonies françaises, et qui ont voulu s'enrichir dans le sucre. Mais il se trouve que dans les colonies des Antilles, il n'y a pas tellement de place pour, enfin il n'y a pas beaucoup de place pour faire à l'époque des plantations sucrières, il faut des plaines, et quand ils sont arrivés, ils ont compris que la plupart des plaines étaient déjà défrichées et que il était difficile pour eux de trouver l'équivalent pour faire fortune. Donc ils ont essayé de résoudre le problème de la manière suivante, comme vous allez le voir, qui était de se mettre à discriminer la partie de la classe dominante des colons de couleur en mettant en place une politique ségrégationniste qui aboutirait, dans leur espérance, dans leur esprit, dans leur politique qu'ils devaient mener jusqu'à son terme, à une expulsion de ces colons de leur droit de propriété, de façon à prendre leur place. Évidemment, vous voyez de quoi il s'agit. Enfin, vous voyez peut-être pas si clairement parce qu'on a peut-être un peu perdu l'habitude de ce genre de choses. Mais enfin, ça ressemble assez fortement à ce qui se passait pendant les guerres de religion, ou ça ressemble aussi également à ce qui se passait, par exemple, dans les pays où il y a des conflits racistes. Je pense au nazisme. Les juifs étaient discriminés. On prenait leurs biens, on les confisquait, on les répartissait aux personnes de la nation dominante, hein. C'est comme ça que ça se passait. Bien, voilà, donc ce sont des choses qu'il faut comprendre et qui prennent ces allures-là et qui sont importantes, et cette politique ségrégationniste va s'enclencher à partir des années 1760-70 et s'accélérer jusqu'à la veille de la Révolution et permettre donc l'apparition d'un parti ségrégationniste qui se trouve en opposition avec l'ancienne classe dominante des colonies qui était métissée, largement métissée, et qui acceptait le métissage pour les autres lorsqu'ils ne l'étaient pas eux-mêmes.
Alors ce parti ségrégationniste, il n'est pas uniquement dans les colonies, parce que c'est ce que vous montrez bien. Il prend pouvoir à l'Assemblée voilà, constituante, sous une forme qui est habituelle au XVIIIe siècle, qui est sous la forme d'un club ou d'une société. Son adversaire, c'est la Société des citoyens de couleur. Et les partisans du ségrégationnisme, au contraire, c'est le club Massiac.
Oui, tout à fait. Et là, il y a une opposition qui va traverser la classe dominante, qui est tout à fait importante à comprendre pour saisir pourquoi et comment cette société esclavagiste qui était extrêmement bien organisée, c'est une société très militarisée, hein, et qui sur place est en état de réprimer toutes les révoltes des esclaves, va se trouver divisée par cette agression, cette politique de division menée par le parti ségrégationniste, et qui va se mettre à diviser la classe dominante et permettre, quoi donc ? Eh bien, de créer une brèche sans précédent dans l'Amérique coloniale, hein, un exemple quasiment unique pour le moment, et qui va autoriser ensuite ultérieurement, par tout simplement destruction de la société militarisée, quoi, hein, de ses forces militaires, en créant cette division, va permettre d'ouvrir cette brèche qui va autoriser les esclaves à prendre l'idée qu'ils peuvent passer à l'insurrection et qu'ils peuvent gagner. Parce que c'est bien gentil de passer à l'insurrection, mais enfin, si on se fait réprimer rapidement, on hésite évidemment, on le comprend. Et là, il y a une situation de plus en plus favorable à une insurrection des esclaves dans cette colonie Saint-Domingue, et elle va se produire en août 91. Je ne vous ai encore rien dit de Julien Raymond. Il est peut-être temps d'en parler. Alors, ce Julien Raymond, lui, il est ce colon métissé, enfin, un de ces colons métissés, il y en a beaucoup, bien sûr, et il a été pris comme porte-parole par la classe de ces colons métissés qui commencent à subir le parti ségrégationniste et qui va se constituer en espèce de groupe d'opposition. Hein, puisque ils commencent à comprendre qu'on veut, on en veut à sa peau, quoi, hein, tout simplement. Et ils vont essayer de se défendre. Alors ils vont passer par des stades différents de prise de conscience de cette situation inédite, hein, faut bien le dire. Et comme faisant partie de la classe dominante esclavagiste, ils vont peu à peu se rendre compte de ce que c'est que le système colonialiste, le système colonialiste esclavagiste, le système colonialiste esclavagiste ségrégationniste, et que c'est l'esclavage qui explique le ségrégationnisme qu'on est en train de leur construire contre eux, sur eux, pour... alors c'est quoi le projet de couleur? C'est l'idée que pour éliminer cette partie de la classe dominante métissée, il faut leur faire croire dans la société, créer un préjugé, quoi, un préjugé purement politique, comme on le disait à l'époque, puisqu'il est appelé de cette façon-là, et qui arrive à inculquer l'idée dominante dans cette société coloniale que la couleur blanche c'est la couleur de la liberté. Et que la couleur noire, c'est la couleur de l'esclavage. Et lorsque l'on est métissé, eh bien, on reste dans les classes subalternes, hein, dans les zones, disons, d'ombre et de subalternisation. C'est un petit peu, enfin, grosso modo, c'est de ça dont il s'agit. Alors, ces libres de couleur vont essayer de se défendre, bien sûr. Et ils vont passer de prise de conscience en prise de conscience. Le travail n'est pas facile, on peut l'imaginer. Lorsqu'on a été esclavagiste, c'est pas facile de se retrouver de l'autre côté. Hein. Et voilà, c'est ce que la Révolution française va susciter, si vous voulez, en Amérique. Quoi.
Surtout que leurs adversaires, le club Mastiaque, est très bien organisé. Ils arrivent à obtenir un débat à l'Assemblée constituante, qui va aboutir par un décret, vous titrez l'Assemblée constituante se déshonore, le décret du 13 mai 1791. Alors rapidement, pourquoi est-ce qu'il a été oublié par l'historiographie, même par Jaurès? Et puis qu'est-ce que c'est ce décret?
Oui, alors la lutte est terrible, le temps passe très vite et on n'a pas beaucoup le temps malheureusement de parler de cette lutte depuis 1789 jusqu'à 91, ça fait 2 ans de lutte. Ces citoyens, enfin ces gens qui se trouvaient donc en France, se sont appelés d'un nouveau nom, les citoyens de couleur, et ils ont inventé quelque chose d'absolument remarquable, c'est ce nouveau nom qui leur permet d'échapper à toute cette langue du racisme, enfin du racisme naissant du projet de couleur, et qui sont des mots d'insulte. Bon, alors ils ont déjà inventé cela, et puis ils se sont battus à la faveur en France de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens pour obtenir leur appartenance au genre humain, puisque c'est comme cela qu'on parlait et que le problème se posait à ce moment-là, et ils ont commencé à s'exprimer et se manifester. Ils ont été entendus dans un premier temps, et puis le club Mastiaque, en les entendant, a riposté immédiatement, a créé des campagnes qu'il était capable de diriger, de mener, tout simplement parce qu'il avait les moyens, le pouvoir de le faire, hein. Et le club Mastiaque en est venu à prendre la direction politique du comité des colonies au niveau de l'Assemblée constituante. Et le comité des colonies, il était quand même proche de la monarchie, puisque les colonies étaient des possessions françaises, du roi de France, quoi. Hein. Et donc, ils ont réussi à faire taire la Société des citoyens de couleur et à obtenir ce vote du décret du 13 mai 1791 qui a constitutionnalisé l'esclavage dans les colonies et qui emportait en même temps la vision ségrégationniste dans les colonies.
Incroyable ce décret, les historiens ne le voient pas. pendant très longtemps.
Voilà, alors il y a une occultation dans l'histoire. Ça, c'est une autre affaire qui se greffe sur cette histoire. Non seulement cette histoire est terrible, mais en plus, vous avez une historiographie qui a occulté toute cette affaire-là. Et à la fin du 19e siècle, ce décret du 13 mai 1791 a été considéré comme quelque chose qui était problématique, honteux peut-être. On ne sait pas très bien, parce qu'on n'a pas les explications. Mais il a commencé d'être occulté. On le connaissait encore tout au long du 19e. Et puis, à partir de 1898... nous avons une historiographie qui le cache et qui continue de le cacher jusqu'à nos jours, et c'est assez inquiétant de voir les manipulations de l'histoire qu'on a pu faire de ceci, quoi.
Vous montrez enfin que finalement, au moment même où l'Assemblée constitutionnalise l'esclavage, à Saint-Domingue, c'est périmé, puisque voilà. Précisément les 22 et 23 août 1791, les esclaves se révolte.
Oui, parce que depuis 1789, ce parti ségrégationniste, comme j'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure très rapidement, a quoi fait ? Ouvert une guerre civile au sein de la classe dominante, et on se retrouve en 90-91 avec des colons blancs contre des colons de couleur, métissés, qui se battent au fusil les uns contre les autres. Et cette situation va complètement déstructurer l'ordre colonial esclavagiste et autoriser les esclaves, qui ont très bien compris de quoi il s'agissait. Mais entre-temps, il y a eu des espèces d'alliances qui se sont formées entre des révoltes d'esclaves et des maquis de libres de couleur qui ont voulu se protéger contre l'offensive du parti ségrégationniste. Et vous avez donc ce nous-là, dans un temps extrêmement rapide, très court, de 89 à 91, quoi, en 2 ans, quoi, c'est très rapide quand même, des alliances nouvelles qui vont porter la révolution des esclaves de Saint-Domingue et une alliance avec les libres de couleur et avec la partie des libres de couleur qui va aller jusqu'au bout de la révolution des esclaves en comprenant la situation nouvelle qui venait de se créer là, ce qui n'est pas si facile à comprendre non plus, hein.
C'est une histoire qui finit, ou plutôt qui commence, en 1804
voilà. C'est une histoire qui va connaître une victoire formidable avec l'indépendance d'Haïti. Donc on est passé de 1789 à 91, puis 91, l'insurrection des esclaves, et puis une longue lutte, on n'a pas le temps d'en parler malheureusement, on y reviendra peut-être, jusqu'à l'indépendance de la République d'Haïti qui est déclarée le 1er janvier 1804.
Florence Gauthier, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'aristocratie de l'épiderme, le combat de la société et des citoyens de couleur, 1789-1791, un très bel ouvrage à lire absolument, et on se quitte avec les Fugees.
This is my cleft refugee camp. Cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics.